France Culture.
Le journal, Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Après le carnage de la répression de la contestation en Iran, la rébellion ne s'est pas éteinte dans la République islamique. Elle se manifeste à présent lors des funérailles des milliers de manifestants tués, des cérémonies transformées en moments festifs, nous expliquera Agera Mohamed en début de journal. Au Niger, la junte militaire accuse la France d'avoir soutenu des djihadistes qui ont attaqué hier l'aéroport de Niamey, assaut repoussé avec l'aide de la Russie, décryptage avec Nathanaël Charbonnier. La Fed, la réserve fédérale américaine, change de président. Kevin Warsh va succéder à Jerome Powell, que Donald Trump avait qualifié d'imbécile, car il ne voulait pas baisser les taux d'intérêt. C'était le plus important camp de migrants de Calais. Il a été démantelé par la préfecture ce matin. Près de 650 personnes évacuées. Les associations dénoncent un acte d'inhumanité. Une mission d'accompagnement titanesque dans un contexte de réduction des effectifs. France Travail a présenté son budget ce matin. Plus de 500 postes devraient disparaître, nous expliquera Marie Viennot. Et puis avec Adrien Toffolet, nous verrons qu'à l'approche des élections municipales dans plusieurs villes de France, des Verts prennent la poudre d'escampette pour rejoindre LFI. En Iran, alors que Donald Trump fait toujours planer la menace d'une intervention militaire, la Turquie cherche à calmer le jeu pour éviter une attaque qui déstabiliserait toute la région. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, est arrivé ce matin à Istanbul pour y rencontrer son homologue turc Hakan Fidan. Abbas Araghchi s'est dit prêt à discuter sur le nucléaire, mais pas sur les capacités de défense du pays, la sécurité du peuple iranien. Ne regarde personne d'autre, a-t-il précisé. Dans la République islamique, où le mouvement de contestation a été réprimé au prix d'un gigantesque bain de sang, on parle de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de morts selon différentes ONG, cette répression féroce n'empêche pas certains Iraniens de continuer à manifester leur opposition, notamment lors des funérailles des manifestants tués, cérémonie transformée symboliquement en moment festif comme un nouvel acte de résistance. Agera Mohamed.
Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, relayées par certains médias d'opposition basés à l'étranger. Ici, aux obsèques d'un jeune Iranien tué à Téhéran, ses proches applaudissent et dansent sur des musiques jouées d'habitude pendant les mariages. Là, un père en costume gris clair tient dans ses mains la photo de son fils mort. Il se lève et se met à chanter. Ces célébrations lors de funérailles, elles sont nées en réalité lors du mouvement Femme, Vie, Liberté, lui aussi violemment réprimé en 2022, rappelle Sahar Aghakani, militante franco-iranienne.
On peut rappeler les dernières paroles de Majid Jezor Dernavaz, qui était l'un des premiers manifestants à avoir été exécuté. Alors qu'il était conduit vraiment vers son exécution, qu'il avait les yeux bandés, il avait déclaré « Je ne veux pas qu'on pleure sur ma tombe, qu'on lise le Coran ou qu'on prie, je veux qu'on célèbre et qu'on joue de la musique ». Donc c'est exactement ce qu'on avait vu à ce moment-là lors de certaines de ces funérailles et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui.
Pour ces familles, c'est une manière de dénoncer le narratif imposé par le régime.
C'est comme si les familles disaient, voilà, vous leur avez pris la vie, mais vous n'aurez pas notre deuil, vous n'aurez pas leur mémoire.
La mémoire de ces manifestants considérés comme des héros aux yeux d'une grande partie de la population, mais comme des traîtres par les autorités iraniennes.
Agera Mohamed de la rédaction internationale de Radio France. Le Niger accuse la France d'avoir joué un rôle dans l'attaque de son aéroport à Niamey. Des djihadistes ont lancé un assaut hier sur l'aéroport de la capitale nigérienne. Attaque revendiquée par l'État islamique et repoussée par la junte au pouvoir avec l'aide de la Russie. On compte une vingtaine de morts parmi les assaillants ainsi que des blessés selon la junte militaire nigérienne. Une attaque inquiétante, d'autant que l'on se trouve à 15 km de la capitale du pays et que l'aéroport est un réel site stratégique qui abrite une base militaire. Mais une fois le calme revenu, ce qui marque, c'est la violence de la réaction de la junte qui accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'être les sponsors des terroristes. Nathanaël Charbonnier.
C'est dans un reportage diffusé à la télévision nationale que le chef de la junte s'en est pris notamment à la France. Sur les images, on voit le général Tiani, véritable homme fort du régime, saluer les soldats qui ont résisté à l'attaque. Ensuite, dans une courte déclaration, il félicite la Russie pour avoir défendu avec professionnalisme l'aéroport, avant de s'en prendre directement à ceux qu'il qualifie de sponsors des djihadistes.
Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à aboyer, qu'ils s'apprêtent à nous écouter rugir.
Le général Tiani qui menace de rugir tel un lion et qui vise notre pays car selon la junte, on compterait parmi les terroristes tués un Français. Pour l'heure, pas de réaction de la France, ce qui n'est pas une surprise, car depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, nos deux pays entretiennent des relations glaciales. Sans compter que la France sert souvent de bouc émissaire dès que la junte rencontre des difficultés. Ce n'est en effet pas la première fois que les militaires accusent Paris de vouloir déstabiliser leur pays. Enfin, on ajoutera qu'il n'y a pas qu'au Niger que la situation est difficile. Au Mali, au Burkina Faso, également les djihadistes gagnent encore du terrain.
La mort du général Morillon, à l'âge de 90 ans, il avait commandé la FORPRONU, la Force de Protection des Nations Unies en Bosnie, de septembre 92 à juillet 1993. Son nom reste intimement associé au drame de Srebrenica. En mars 93, il avait lancé aux habitants de l'enclave assiégée par les forces serbes bosniaques « Vous êtes à présent sous la protection des forces des Nations Unies, je ne vous abandonnerai pas ». Deux ans plus tard, l'enclave tombait entre les mains des troupes serbes de Bosnie du général Mladic. Dans les jours suivants, quelques 8000 hommes et adolescents musulmans avaient été exécutés sommairement. Après la mort à Minneapolis de deux citoyens américains sous les balles de la police fédérale chargée de l'immigration, les mots forts de Teresa Ribera, la vice-présidente de la Commission européenne, elle a déploré aujourd'hui des images terrifiantes et parle de choc. « Je ne veux pas ça pour mon pays ou pour mon continent », a-t-elle dit à Bruxelles. La Fed change de patron, Kevin Warsh vient d'être nommé par Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale américaine, l'équivalent en Europe de la Banque centrale. Cet économiste et banquier, qui était notamment passé par la Maison Blanche sous George W. Bush, succédera en mai prochain à Jerome Powell, particulièrement critiqué par le président américain, qui l'avait pourtant nommé avant de le traiter d'imbécile, car il avait refusé d'abaisser les taux d'intérêt de la Fed. Alors est-ce que son successeur, Kevin Warsh, qui a beaucoup critiqué la Fed ces derniers temps, entrera dans les clous dorés du président milliardaire? Franck Mathevon, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Correspondant de France Culture à Washington, en tout cas ce conservateur connaît bien la Fed car il y a déjà siégé.
Son nom a émergé tardivement dans la course. Kevin Warsh était pourtant déjà pressenti en 2016, avant que Donald Trump ne nomme Jerome Powell, choix qu'il regrette. Il ne cesse de critiquer l'actuel président de la Fed, pas assez radical à ses yeux sur la baisse des taux d'intérêt. Kevin Warsh a au moins un point commun avec Trump. Il est lui aussi très dur avec la Fed depuis des années. Il appelle à la baisse des taux, ce qui peut surprendre car il a longtemps fait figure de faucon partisan de taux élevés pour juguler l'inflation. Warsh a été l'un des gouverneurs de la Fed, nommé en 2006 à 35 ans seulement. Son CV rassure les milieux financiers, Stanford, Harvard, puis la banque Morgan Stanley. Kevin Warsh devrait donc encourager la baisse des taux d'intérêt, mais il n'est pas le seul décideur et les 12 sages sont partagés. Ils ont maintenu cette semaine les taux inchangés. Warsh doit par ailleurs être confirmé par le Sénat, pas encore gagné. Des élus républicains refusent de valider qui que ce soit tant que l'indépendance de la Fed n'est pas garantie. Ils réprouvent la procédure au relent politique visant l'actuel patron Jerome Powell pour sa gestion contestée des travaux de rénovation de la Banque centrale.
Une mise à l'abri pour la préfecture, une opération d'expulsion de plus pour les associations. 600 à 650 personnes ont été évacuées ce matin à l'aube sous une pluie battante de l'un des plus grands camps de migrants de Calais, campement fait de tentes, de palettes et d'abris de fortune en bois dans la zone de Virval, dans le sud de Calais, au niveau d'un échangeur autoroutier. Les associations précisent que beaucoup de personnes sont arrivées sur place ces dernières semaines, expulsées d'autres lieux de Calais. Le préfet du Pas-de-Calais Calais a indiqué que ces migrants séjournaient dans des conditions insalubres dans l'attente d'une traversée clandestine vers la Grande-Bretagne. La préfecture ajoute que 260 personnes ont accepté une mise à l'abri dans des centres d'accueil et d'examen des situations. Les associations dénoncent en tout cas un acte d'inhumanité. C'est le cas de Claire Millot, secrétaire générale et vice-présidente de l'association Salam, qui vient en aide aux migrants.
C'est une façon d'être volontaire qui est bizarre, hein. Par le temps qu'il fait, hein. Vous êtes dehors, on vous prend votre couverture, votre tente, la bâche qui protège votre tente pour qu'elle reste imperméable, et puis on vous dit, bah, si tu veux, tu montes dans le bus. Bien sûr qu'il y a 260 gars qui montent dans le bus, ouais. Parce qu'ils se disent, au moins ce soir, je dormirai au chaud. Mais dans les jours qui viennent, bah, ils vont revenir, bien sûr. Et ils vont revenir demander aux passeurs de les aider à passer. C'est certain, les passeurs interviennent beaucoup sur le, puisque c'est le plus grand camp, interviennent beaucoup sur ce camp à côté de l'hôpital de Calais. J'espère qu'ils n'imaginent pas qu'ils vont arrêter d'intervenir pour les centaines qui restent sur place. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent, monsieur le préfet? Que d'un seul coup, parce qu'on a enlevé leur tente, parce qu'on les a chassés de cet endroit, les passeurs ne peuvent plus intervenir auprès d'eux. Au contraire, ils ont d'autant plus besoin des passeurs qui sont sans rien sur la tête pour dormir ce soir. J'ai vu qu'il y avait 7 tonnes, je crois, de matériel qui arrive aujourd'hui à la ressourcerie et qu'il faut une semaine pour trier. Alors, une semaine sans tente sur la tête. Il imagine, monsieur le préfet, ce que ça veut dire ?
Claire Millot, secrétaire générale et vice-présidente de l'association Salam, au micro de Marc Potvin sur France Info. C'est un chantier colossal mené de surcroît avec des moyens en baisse. 2 ans après sa création, France Travail a présenté aujourd'hui son bilan de l'année 2025, chargé d'accompagner les demandeurs d'emploi vers le retour au travail et d'aider les entreprises à trouver des candidats. L'agence qui a remplacé Pôle emploi s'est vue également confier il y a un an le suivi des allocataires du RSA en partenariat avec les départements. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Ce budget en passe d'être adopté fait grincer des dents dans les équipes car il prévoit en effet la suppression de 515 emplois cette année à France Travail.
Oui, c'était dans le projet de loi de finances initiale présenté en novembre. Des Républicains aux communistes en passant par le centre et les écologistes, le Sénat l'avait fait sauter et c'est revenu à la faveur des amendements que le gouvernement réintroduit sans beaucoup de transparence d'ailleurs dans le texte soumis au 49.3. Le gouvernement explique que 515 emplois, c'est juste 1% des effectifs puisqu'il y a 54 000 agents chez France Travail. Alors les syndicats ont déjà dénoncé un choix injuste et dangereux alors que le chômage repart à la hausse et que la loi dite plein emploi a fait passer dans le giron de France Travail le suivi de 1 800 000 allocataires du RSA. En tout, cela fait donc 600 500 000 personnes à suivre. Pour celles qui sont les plus éloignées de l'emploi, France Travail a prévu un accompagnement intensif. Un collaborateur, c'est 100 accompagnements intensifs par an. Et 43% de retour à l'emploi, s'est félicité le directeur de France Travail. Alors même s'il dit espérer des gains d'efficience sur d'autres postes grâce à l'intelligence artificielle, Thibaut de Guilly déplore néanmoins les postes qu'il va perdre et fait ce calcul. 515 emplois en moins, c'est potentiellement 500 000 accompagnements intensifs en moins.
Cette année, on a augmenté de 80% le nombre d'accompagnements intensifs. Donc c'est 660 000 personnes qui ont été accompagnées par France Travail. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on fait la démonstration tous les jours avec les départements de France que quand on accompagne une personne au RSA, elle retrouve assez rapidement un emploi dans un certain nombre de cas et que du coup c'est bon pour les personnes, c'est bon pour les entreprises qui cherchent des talents et c'est bon pour la dépense publique parce que l'allocation c'est toujours beaucoup plus coûteux qu'un peu d'accompagnement.
Et France Travail, Marie, s'est aussi vu fixer des objectifs ambitieux en matière de contrôle.
Oui, un décret publié en mai dernier a renforcé les sanctions pour les chômeurs qui manquent à leur obligation de recherche d'emploi, y compris pour les titulaires du RSA, dont l'allocation est versée par les départements. Alors France Travail a mené 944 000 contrôles l'an dernier, 210 000 personnes ont été, je cite, redynamisées après, et dans 18% des cas, les contrôles ont débouché sur des sanctions. L'objectif fixé pour 2027, c'est 1 500 000 contrôles, un tiers de plus donc, et là, avec des effectifs effectifs en baisse, ce sera difficile à tenir, a reconnu le directeur de France Travail.
Marie Viennot. 49.3 x 3, il aura fallu 13 petites secondes à Sébastien Lecornu pour le déclencher pour la troisième fois ce matin en ouverture de séance pour faire passer son projet de budget qui devait être examiné en lecture définitive et en engageant la responsabilité de son gouvernement. Le Premier ministre a également déclenché deux nouvelles motions de censure issues d'une partie de la gauche et de l'extrême droite. Elles seront examinées par les députés ce lundi a priori et devraient être, sauf surprise de taille, rejetées tout comme les précédentes. Grâce à la bienveillance du Parti Socialiste et des Républicains, le budget de l'État aura alors été définitivement voté. Encore faudra-t-il que le Conseil constitutionnel donne son feu vert avant la promulgation. C'est la guerre des Verts. Les écologistes se divisent à moins de deux mois des municipales. Hier, deux élus parisiens ont décidé de dénoncer l'alliance historique entre leur parti et le Parti Socialiste dès le premier tour pour rejoindre la candidate insoumise à la mairie de Paris, Sophia Chikirou, restée à l'écart de l'Union de la Gauche dans la capitale. Et ce n'est pas un événement isolé, car d'autres cadres des Verts ont fait la même chose dans d'autres grandes villes cette semaine. C'est lundi qu'ont débuté les hostilités, avec une tribune publiée par Mediapart, signée par environ 400 militants et élus écologistes, dénonçant la ligne portée par Marine Tondelier et la direction du parti, Adrien Toffolet.
Une ligne politique jugée illisible, autant sur le budget que sur la stratégie municipale, en votant les motions de censure contre le gouvernement avec les insoumis et en s'alliant majoritairement au municipal avec les socialistes, donc sans LFI, faisant des écologistes, je cite, « la béquille d'une social-démocratie qui entend exclure la France insoumise et choisit de tourner le dos au programme comme à la logique unitaire du nouveau Front populaire ». Aucune figure nationale parmi les signataires de cette tribune, mais une partie d'élus locaux et de cadres tout de même, dont le positionnement n'a pas manqué d'énerver la direction écologiste. Parmi ses frondeurs, Julia Mignacca, présidente du Conseil fédéral, le parlement interne du parti, et co-chef de file de la liste écologiste pour les municipales à Montpellier, portée par le député Jean-Louis Roumégas. Cette même Julia Mignacca, qui deux jours plus tard, mercredi, annonce qu'elle claque la porte de son parti pour rejoindre la liste de la France insoumise. À Avignon, la chef de file des écologistes rejoint aussi la liste LFI, sans quitter son parti. Idem à Nantes, avec un adjoint à la maire socialiste, et donc Paris, où deux conseillers municipaux emporteraient avec eux plusieurs dizaines d'élus. Tous font part de désaccords stratégiques profonds avec la direction nationale, prise dans un jeu d'équilibriste inconfortable, en se voulant le trait d'union entre PS et LFI. Dans l'entourage de Marine Tondelier, on soupçonne les troupes de Jean-Luc Mélenchon d'être à la manœuvre, lesquelles réfutent, tout en se frottant les mains, de voir cette dissidence écologiste les rejoindre. En interne, en tout cas, la direction des écologistes privilégie la fermeté envers les élus de la tribune, menace de purge, retirer leur signature sous peine d'exclusion.
Adrien Toffolet, service politique de France Culture. Des viennoiseries un peu sèches, des légumes fatigués ou de la viande sur le point de se périmer, voilà ce qui part à la poubelle tous les jours dans les commerces alimentaires. 300 000 tonnes de produits jetés chaque année. Alors pour limiter le gaspillage, le gouvernement veut faciliter les dons d'invendus aux salariés de ces commerces. Lou Momège, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, ça se fait dans certaines enseignes, mais les salariés doivent déclarer ces dons qui sont donc soumis à des cotisations sociales.
Oui. C'est pour ça que Bercy doit définir les contours de ce nouvel arrêté avant l'été. Mais déjà, pas question de pénaliser les associations qui récupèrent les invendus pour les plus démunis. Elles demeurent prioritaires. Pour les 300 000 tonnes qui restent, eh bien, 1 million de salariés pourraient en bénéficier. Pourraient, car ce sera sur la base du volontariat des entreprises. Sont concernés aussi bien les hypermarchés que les petits commerces alimentaires, comme votre boulangerie de quartier. L'annonce ne fait toutefois pas l'unanimité chez les salariés. Écoutez Laurent Lamoury, délégué syndical chez Carrefour.
On gagne 1 800 euros, 1 900 euros brut. Ce qui serait mieux, c'est que le gouvernement fasse en sorte que les salaires augmentent, qu'on ne soit pas obligé d'avoir, entre guillemets, les restes de tout ce qui n'est pas donné, quoi. Déjà, quand il y a des réductions, par exemple, c'est les salariés qui vont être là à ce moment-là qui vont en profiter. Donc, je ne sais même pas comment ils veulent redistribuer ces produits, quoi.
Une mesure aussi trop symbolique au niveau écologique pour Nathalie Villermé. Elle anime le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire en Normandie.
On voit que le gaspillage, on en a partout, à tous les niveaux. Les dernières études montraient que c'est au niveau de la consommation, parce que c'est là où toute l'alimentation va la retrouver, au niveau du consommateur. Donc c'est là où on va avoir beaucoup de gaspillage. Mais on a également beaucoup de gaspillage au niveau de la production, On en a au niveau des entreprises agroalimentaires aussi, au niveau de la restauration collective. Au niveau des magasins, on en a aussi, mais ce n'est pas le secteur qui produit le plus, hein, ça c'est sûr.
D'après la Commission européenne, sur les 3 800 000 tonnes d'aliments encore comestibles et jetés chaque année en France, 8% viennent de la distribution.
Pluie et vent, c'est ce qui nous attend ce soir au rayon météo, un peu plus sec sur le sud-est. Demain samedi, des averses éparses sont au programme sur l'ensemble du pays, avec de la neige sur les hauteurs des Alpes et des Pyrénées. Météo France a placé les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange, pluie, inondation. Niveau température, prévoyez 2 à 6 pour les minimales, 5 à 15 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal. Alison Vicrobeck était à la réalisation, Alex Dang à la technique.